La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes pour cette reprise de La Science s'amuse, l'émission scientifique coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier qui vous emmène en croisière dans l'archipel des laboratoires de recherche MUSE. Et aujourd'hui, cap sur la Côte d'Ivoire où vous attend une grande et bonne nouvelle puisque l'OMS vient de valider officiellement l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Je vous entends d'ici. Grande nouvelle, d'accord, mais c'est quoi la trypanosomiase humaine africaine? Alors, vous ne le savez pas, mais pourtant cette maladie, vous la connaissez, et vous la connaissez même bien. Si je vous parle de maladie du sommeil et de son tout aussi célèbre vecteur, la mouche tsetse, les choses sont plus claires, n'est-ce pas? Allons plus loin. Cette maladie endémique de l'Afrique subsaharienne est provoquée par un parasite identifié au tout début du XXe siècle, le trypanosome de Bruce, du nom de son découvreur, Sir David Bruce. Un parasite à l'origine de trois événements épidémiques majeurs au XXe siècle, provoquant plusieurs millions de morts. Si cette maladie mortelle s'est fait plus discrète ces dernières décennies, elle n'a pour autant pas disparu et continue d'infecter de nombreuses personnes en Afrique. En Afrique, mais plus en Côte d'Ivoire, donc, où le programme national d'élimination de la maladie a permis de faire baisser le nombre de contaminations à seulement 9 depuis 2015. Un résultat spectaculaire obtenu grâce au soutien de la recherche et notamment au partenariat historique entre l'Institut Pierre Richer situé à Bakoué et l'équipe Intertrip composée de chercheurs de l'IRD et du CIRAD et de leur programme baptisé Trypano. Excusez-moi. Notre invité fait partie de cette équipe. Il est parasitologiste à l'IRD, j'ai réussi, et co-auteur d'une publication sortie en février dernier dans PLOS Neglected Tropical Disease. Vincent Jamono, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Et merci de me donner l'opportunité de passer dans cette belle émission de La Science s'amuse.
Avec moi, comme chaque semaine, pour mener cette interview, la journaliste qui jamais ne dort, Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie, le reportage en salle des machines revient et vous emmène au CEDRE, le Centre d'études, de documentation et de recherche en histoire de l'éducation. Son directeur, Sylvain Vagnon, y conserve une singulière collection, les films fixes utilisés comme matériel pédagogique dans les écoles françaises au cours des années 50. Et croyez-moi, ça nous réserve quelques pépites. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Vincent Jamono, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite bestiole, ce parasite qu'on appelle le trypanosome et de la manière dont il se transmet ?
Oui, alors donc le trypanosome, c'est un protozoaire, c'est un être unicellulaire. Il fait la taille, il est à peine plus grand qu'une cellule sanguine. Il a un flagelle, ce qui lui permet d'être mobile dans les liquides biologiques dans lesquels il se développe.
Un flagelle, c'est une petite queue.
Un flagelle, voilà, c'est une petite queue qui est issue de son corps et qui lui permet donc, un peu comme un spermatozoïde, en fait, on a plus l'habitude peut-être de voir ce type d'être. Et donc, ce trypanosome est très mobile. D'ailleurs, c'est ce qui le trahit souvent. On utilise cette mobilité pour le diagnostiquer dans le sang, dans la lymphe, dans le liquide céphalo-rachidien, donc dans les liquides dans lesquels il vit. Et ce trypanosome, donc, il en existe plusieurs espèces. Ça, c'est important parce qu'il y a un trypanosome qui est le pathogène de l'homme et qui est responsable donc de la maladie du sommeil, hein, la trypanosomiase humaine africaine. Et en fait, il y a d'autres trypanosomes qui sont responsables de maladies, mais plutôt chez l'animal. Alors, c'est assez difficile de faire la distinction entre tous ces parasites parce que morphologiquement, ils sont indistinguables. Donc, on étudie leur ADN hein, pour pouvoir les différencier. Et donc, ce parasite, celui qui est responsable de la forme humaine, s'appelle Trypanosoma brucei, pardon.
C'est Brucei.
Brucei, le trip. Ouais, alors, ça vient bien du nom Bruce, de la personne qui l'a découvert, mais l'espèce s'appelle Trypanosoma brucei. Et ce Trypanosoma brucei, donc, il est transmis d'un homme à un autre par l'intermédiaire de la mythique mouche tsetse, la glossine, donc de son nom latin, le genre glossina. Et voilà, donc ce parasite est transmis comme ça d'un homme à un homme par la piqûre de cette mouche tsetse.
Et alors, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la maladie, la trypanosomiase, la maladie du sommeil? Vous pouvez nous décrire un peu les symptômes de cette maladie?
Oui, alors ce que je vais déjà commencer par vous dire, c'est que c'est une maladie qui évolue chez l'homme en deux phases. Il y a une première phase pendant laquelle le trypanosome se multiplie dans le sang et dans la lymphe. C'est ce qu'on appelle la première phase, la première période. Et pendant cette phase, elle est quasi asymptomatique. Le malade va avoir des fièvres, des céphalées répétées, des sensations de fatigue générale et des fois quelques prurites, quelques signes cutanés. Mais voilà, rien de vraiment pathognomonique, c'est-à-dire rien de vraiment spécifique à la maladie. D'ailleurs, on confond souvent ces symptômes avec ceux du paludisme, hein, ou d'autres maladies qui sévissent dans ces zones. Au bout d'un moment, on ne sait pas trop pourquoi, le trypanosome rentre dans le liquide céphalo-rachidien. Donc ça peut être au bout d'un an, deux ans, trois ans, suivant les cas. Le trypanosome pénètre le liquide céphalo-rachidien, rentre dans le système nerveux. Et là, vont apparaître, donc c'est la phase neurologique, la deuxième période. Et là, vont apparaître plusieurs signes neurologiques. Et alors, les premiers centres à être touchés au niveau neurologique sont les centres du sommeil, d'où le nom donné à la maladie, parce qu'il y a un dérèglement. Alors, on a souvent l'impression que la maladie du sommeil, c'est la maladie qui fait dormir. En fait, bon, c'est pas complètement le contraire, mais ça a plutôt tendance à inverser les cycles, enfin à dérégler les cycles jour-nuit. Et donc ensuite, il y a une évolution progressive avec l'atteinte neurologique qui se généralise. Donc après, c'est des troubles neurologiques, des troubles de la marche, des troubles du comportement, des troubles de toutes les fonctions en fait biologiques humaines. Et petit à petit, donc le malade va sombrer dans un coma sommeilleux et sans traitement généralement, la maladie elle est fatale. Voilà pour les signes cliniques.
Alors, donc, comme on l'a dit, cette maladie, elle a été très meurtrière au XXe siècle. À l'heure actuelle, on a une idée, on imagine que c'est pas facile à chiffrer, mais on a une idée du nombre de personnes qui sont encore infectées par cette maladie.
Alors, le nombre de personnes actuellement infectées, ça c'est difficile à savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de cas qui ont été rapportés par l'OMS en 2019, enfin d'ailleurs depuis 2018, est passé en dessous de la barre assez symbolique, hein, d'ailleurs de 1000 cas à l'échelle de toute l'Afrique, hein, parce que c'est vraiment une maladie qui est essentiellement africaine, ça c'est important de le rappeler. Après, on sait que à l'aide de certains indicateurs, qu'il y a plus de 50 millions de personnes qui sont soumises au risque de la maladie, notamment d'être piquées par une mouche tsetse dans des zones où la maladie continue de se transmettre, enfin le parasite. Maintenant, voilà, on n'a pas d'idée vraiment précise sur le nombre de personnes vraiment infectées. Là, pour avoir une idée précise, bah, il faudrait faire il faudrait continuer de diagnostiquer, de faire du dépistage pour...
Ce dont on va parler dans quelques minutes.
D'accord, donc je vous laisse pour la prochaine,
exactement.
Prochaine question. Et oui, du coup, juste avant, je posais quelques questions encore sur la maladie. Et comment on fait pour la soigner? Est-ce qu'il y a un traitement efficace pour soigner les patients qui sont atteints de trypanosomiase?
Alors ce que je vais rappeler déjà, c'est qu'on a affaire à ce qu'on appelle une maladie tropicale négligée, c'est-à-dire c'est des maladies, un ensemble de maladies hein, qui touchent des populations souvent pauvres, reculées, vulnérables et qui ne suscitent pas beaucoup l'intérêt, on va dire, de l'industrie pharmaceutique. Donc ça a toujours été une grande complexité de traiter ces maladies et la maladie du sommeil en particulier. Le traitement, pour vous donner juste, pour bien vous illustrer mes propos, c'est que jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, on traitait la maladie avec un dérivé arsenical qui, le traitement lui-même, tuait entre 5 et 10% des personnes auquel le traitement était administré. Donc se dire ce serait totalement inconcevable d'utiliser ce type de traitement ici par exemple en France. Maintenant, il y a quand même eu des efforts importants qui ont été menés ces dernières années avec des essais cliniques menés par une fondation qui s'appelle le DNDi, avec l'aide de quelques industries pharmaceutiques quand même. Et donc, ils ont développé un nouveau traitement qui est un traitement, là tout dernièrement, il y a un nouveau traitement oral donc, qui facilite l'administration du traitement. Mais ce traitement reste encore assez contraignant parce qu'il doit se délivrer il doit s'administrer sous surveillance médicale. Donc, ça nécessite toujours une hospitalisation. Bon, en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement contre la maladie du sommeil, c'est un traitement qui est souvent toxique. Alors, il l'est de moins en moins grâce aux efforts qui ont été menés ces dernières années. Mais par contre, il est toujours très contraignant parce qu'il nécessite une hospitalisation. Donc, c'est toujours très, très embêtant et pour le malade et pour les gens qui l'accompagnent. Surtout que toujours lié au caractère négligé de la maladie, c'est que souvent dans les pays qui sont touchés par la maladie, il y a peu de centres de traitement. Je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pendant des années, des dizaines d'années, il n'y a eu qu'un seul centre. Aujourd'hui, il y en a trois. Donc vous voyez, quelqu'un qui est dépisté des fois à plusieurs centaines de kilomètres, cette complexité de faire un long déplacement pour se faire traiter. Et je terminerai juste là-dessus parce qu'il y a comme une note d'espoir importante, c'est qu'il y a une nouvelle molécule actuellement qui est en phase 3 d'essai clinique et avec un grand espoir d'avoir un médicament oral très peu toxique et surtout à dose unique, ce qui permettrait de traiter de façon
plus besoin d'aller à l'hôpital, d'être hospitalisé.
C'est ça, exactement, ouais.
Super. On a parlé donc d'élimination de la maladie en Côte d'Ivoire. Éliminer, c'est pas la même chose qu'éradiquer, on suppose. Donc ça veut dire quoi, éliminer une maladie?
Oui, et puis même dans éliminer, il y a encore des nuances. C'est des terminologies, des indicateurs qui sont mis en place par l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour qu'on sache bien où on en est dans ces processus d'élimination qui sont souvent longs et complexes. D'abord, il y a une première phase de contrôle, c'est de circonscrire les épidémies. Ensuite, il y a une deuxième phase, c'est d'atteindre l'élimination comme problème de santé publique. Donc là, c'est d'atteindre une cible chiffrée. Je pourrais vous la détailler si vous le souhaitez. Donc on atteint une cible chiffrée et ensuite l'étape, donc ça, cette cible, elle est validée, on valide l'élimination comme problème de santé publique. Ensuite l'étape d'après, c'est l'interruption de la transmission et ça, c'est vérifié, on parle de vérification de l'interruption de la transmission. Et l'étape ultime, c'est l'éradication qui, elle, est certifiée. Voilà, ça c'est vraiment de la terminologie. Je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule maladie qu'on considère éradiquée, c'est la variole. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples où on a atteint cette cible ultime.
Et donc là, on se trouve en Côte d'Ivoire entre l'élimination et la vérification dans les étapes que vous nous avez...
Alors, en Côte d'Ivoire, voilà, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé donc le 25 mars que l'OMS avait validé l'élimination comme problème de santé publique. Donc c'est vraiment une façon de dire que c'est certes, hein, c'est une étape cruciale d'atteinte, c'est vraiment une bataille de gagner, mais par contre, voilà, la lutte continue. Et la prochaine étape, maintenant, en Côte d'Ivoire, on sait... L'OMS a ciblé 2030 pour atteindre l'interruption de la transmission en Afrique en général. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est un peu plus ambitieux parce que ça marche plutôt bien ce qu'on fait. Je le dis avec assez d'humilité. Mais voilà, on est assez content d'avoir atteint ça. Donc voilà, c'est important de le souligner. Et voilà, donc maintenant, nous, on voudra atteindre cet objectif avant 2025. Et ça, c'est important aussi parce que d'avoir ces étapes, c'est que ça permet non seulement aux acteurs qui sont impliqués dans ce processus de rester vigilant, et ça permet aussi de contribuer à faire du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour bien leur montrer que voilà, on a certes, c'est une victoire, mais maintenant il faut continuer à poursuivre les efforts pour atteindre le prochain objectif.
Et justement, on va reparler un peu de cette bataille de gagner pour parvenir à l'élimination. C'est le résultat d'un véritable travail sur le terrain avec de nombreuses disciplines. Vous êtes virologiste, il y a des médecins, des géographes, des entomologistes, des vétérinaires, des modélisateurs, des équipes de recherche, y compris avec des personnes du pays. Et la collaboration, comment est-ce qu'elle s'est mise en place? Le projet s'appelle Tripano, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Alors, je fais une toute petite précision, je ne suis pas virologue.
Parasitologue, évidemment. Parasitologue.
Et c'est une très bonne question. En fait, il y a déjà un partenariat de longue date entre l'Institut de recherche pour le développement, donc l'institut pour lequel je travaille, et les partenaires ivoiriens sur ces sujets, sur ces maladies tropicales négligées. C'était un petit peu de façon historique, en tout cas, il y a toujours eu une implication assez forte de la France, en tout cas dans la lutte contre ces maladies. Et ce partenariat avec, donc, bien sûr, les partenaires ivoiriens ont travaillé pendant des années, alors surtout au travers de projets de recherche, et ont permis donc de circonscrire ces fameuses épidémies. Et c'est vrai que tout dernièrement, donc à partir des années 2000, quand on a vu le nombre de cas commencer à diminuer en Côte d'Ivoire. Déjà, chose très importante, c'est que le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire a créé ce qu'on appelle un programme national d'élimination, à la différence des autres pays. Enfin, avant, c'était un programme national de lutte. Là, maintenant, c'était vraiment un programme national d'élimination.
C'est indispensable qu'il y ait un engagement comme ça des politiques pour mener ce genre d'action.
C'est plus qu'indispensable, c'est crucial, c'est essentiel. Sans un engagement politique des pays dans lesquels on travaille, ça sert à rien de mener des études, parce que de toute manière elles n'aboutiront pas, c'est essentiel. Donc il y avait cet engagement qui était primordial. En fait, on s'est aussi rapidement rendu compte, donc le programme national de lutte et ses partenaires recherche, donc depuis 2007, on s'est rapidement rendu compte aussi que de la complexité, et que c'était vraiment un défi finalement, ce qu'on appelle nous la transition épidémiologique, c'est-à-dire du passé du contrôle à l'élimination. Il fallait adapter les méthodes de lutte, adapter les stratégies de lutte. Donc c'est là où la recherche, d'ailleurs, a joué un rôle essentiel dans l'adaptation de ces méthodes, de ces outils, de ces stratégies. Et ça aussi, ça a été rendu possible justement par le fait qu'on travaille tous ensemble de façon vraiment multidisciplinaire, donc avec des parasitologistes, des entomologistes, des géographes.
Et pas de virologue alors
Pas de virologue, parce que virologue, c'est sur un virus, mais donc on travaille sur des parasites. Mais donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette... et ça, c'est donc en 2015 où on a vraiment concrétisé ce partenariat avec donc derrière le programme national d'élimination, donc plusieurs institutions. Si vous le permettez, je vais les citer parce que ça me permet de faire un petit clin d'œil à mes collègues ivoiriens. Donc il y a l'Institut Pierre Richer, qui est une antenne de l'Institut national de santé publique, et c'est là où je suis en affectation actuellement. Il y a une université aussi de Dallois avec une jeune équipe super dynamique. Donc je vais citer les essentiels. Et donc nous, on est le partenaire IRD qui travaille en partenariat donc avec ses collègues ivoiriens pour atteindre ce fameux objectif d'interruption de la transmission.
Alors, vous avez plusieurs volets, justement, dans ce programme, je vais y arriver. Un de ces volets, c'est le volet dépistage, justement. Donc, on commence à être habitué à ces histoires de traçabilité. Comment ça se passe, ce volet dépistage? Est-ce qu'il y a des dépistages spécifiques, adaptés au terrain?
Oui, et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure en début d'émission sur les symptômes et sur la clinique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de signe qui soit spécifique de la maladie. Elle est très difficile à diagnostiquer cliniquement parlant, sauf bien sûr dans les dernières phases de la maladie. Et donc du coup, on utilise des outils de diagnostic, plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des outils de diagnostic sérologique qui permettent de détecter des traces de passage du parasite. Cela, en général, on les applique à des populations importantes. Et ensuite, dans ces sujets-là, quand on a détecté ce qu'on appelle un suspect sérologique, on lui fait les tests parasitologiques. En fait, ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en évidence le parasite. Et ça, c'est vraiment lié à la difficulté et à la toxicité et à la contrainte liée au traitement. C'est que l'OMS recommande de mettre en évidence le parasite avant de décider d'un traitement. Donc, d'où l'importance de ces outils de diagnostic qui permettent donc de détecter le parasite et de traiter un sujet. Et ça, c'est une des méthodes de lutte les plus importantes, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle, nous, la lutte médicale, qui permet de tester, diagnostiquer, et ça permet d'assainir le réservoir humain de parasites.
Et du coup, vous avez aussi un volet de travail qui est travail sur le vecteur de la maladie. J'ai vu que vous avez mis en place des pièges à mouches, que vous appelez des écrans à glossine. Comment est-ce que ça fonctionne, ces pièges ?
Alors ça, c'est parfait. Vous me tendez une bonne perche pour citer cette deuxième grande méthode de lutte, qui est la lutte antivectorielle. Voilà, on a cette chance, entre guillemets, d'avoir une maladie parasitaire à transmission vectorielle. Donc ça offre deux angles d'attaque. Et donc, cette lutte antivectorielle, donc, qui vise à faire diminuer les densités de glossine pour en fait limiter le risque de transmission. Elle est en effet basée sur des pièges qui ont été mis au point, notamment par des chercheurs de l'IRD, en partenariat avec les chercheurs ivoiriens. Il y a un piège, un des premiers pièges qui a été mis au point, qui s'appelle le piège Vavois. Et Vavois, c'est un foyer de maladie du sommeil en Côte d'Ivoire. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a eu des recherches et des avancées importantes sur la recherche sur cette maladie en Côte d'Ivoire. Et donc, ces pièges, ils sont en tissu noir et bleu. En fait, c'est la mouche, elle chasse à vue. Elle se nourrit de sang, hein, donc elle cherche des hôtes. Et elle chasse à vue. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais ce bleu, il y a un bleu qui est le bleu ce tissu bleu, hein, qui est une couleur qui est très attractive pour les glossines. Pourtant, on ne peut pas dire que cette couleur soit très commune dans la nature, mais voilà, il y a des tests qui ont été faits dans des insectariums, des endroits où on élève les glossines, et qui ont montré que ce bleu était particulièrement attractif, et ce bleu attire les mouches, et il suffit. On imprègne ensuite ce tissu, on l'imprègne d'insecticides, et quand la mouche est attirée par le bleu, eh ben, elle se pose sur le tissu, et là, elle s'imprègne d'insecticides, et elle meurt.
Et est-ce qu'on a réussi à faire baisser les populations de glossines avec ces méthodes-là ?
Ah ben ouais, considérablement même, parce que je vais vous donner les résultats très récents de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Il y a deux foyers encore endémiques, hein, où la maladie peut potentiellement se transmettre. Donc on maintient cette lutte antivectorielle, et depuis qu'on l'a mise en place, on a obtenu entre 95 et 98% de réduction des densités de mouches. Alors je précise bien que l'objectif, c'est pas d'éradiquer les mouches, hein, c'est juste ni de les éliminer. C'est juste de faire descendre de faire baisser les densités pendant un temps suffisant pour arrêter et interrompre la transmission du parasite. Pour limiter le contact en fait entre l'homme et le vecteur.
Alors ce programme Tripano, il est également développé donc dans d'autres pays, pas uniquement en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Ouganda, au Tchad. Où est-ce qu'on en est dans ces pays ? C'est le même succès qu'en Côte d'Ivoire ?
Alors, en Ouganda, ils ont déjà, ils sont en train de rédiger, eux, leur dossier pour solliciter la validation de l'élimination comme problème de santé publique auprès de l'OMS. Donc, il y a toujours quelques cas. On est à peu près dans une situation épidémiologique assez similaire à celle de la Côte d'Ivoire. Au Tchad, il y a eu des épidémies encore assez importantes. Jusqu'à il y a une dizaine d'années. Donc là, il y a eu des efforts de lutte assez considérables, hein, qui sont d'ailleurs toujours en cours actuellement. La situation s'améliore, mais il y a encore des efforts à faire assez importants pour qu'eux puissent commencer et initier ce processus de validation. Ensuite, en Guinée, c'est dommage, la situation a été rendue assez complexe. En fait, on était plutôt bien parti parce qu'on travaille beaucoup aussi en Guinée dans les foyers du littoral qui sont les plus importants, actuellement les plus actifs de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2012, on se voyait bien aussi atteindre l'élimination comme problème de santé publique dans les années à venir. Et malheureusement, l'épidémie d'Ebola est venu contraindre compliqué, un peu, j'imagine. Compliquer les choses. Et en fait, voilà, nos équipes n'avaient plus accès au terrain pendant 2 ou 3 ans. Et forcément, pendant ce temps-là, la maladie du sommeil, elle en a profité pour réémerger. Donc, 2015-2016, après, en post-Ebola, pas retour à la caisse départ. Mais en tout cas, voilà, la situation, on a quand même une réduction assez importante du nombre de cas depuis 2 ans. Donc, nos espoirs sont de nouveau là. Pour atteindre cet objectif d'élimination comme problème de santé publique aussi en Guinée.
Et à terme, quand on aura atteint l'objectif de l'éradication, est-ce qu'il y a un moment où on pourra relâcher toute surveillance et arrêter d'avoir recours au dépistage ou aux écrans à glossine, ou est-ce qu'il faudra toujours rester vigilant pour pas que la maladie ne réémerge ?
Ouais, alors. Bon, l'éradication, ça c'est vraiment le stade ultime. De toute manière, on ne pourra pas parler d'éradication dans un pays, parce que c'est des choses qui vont se faire de façon globale. On éradique à l'échelle continentale pour ce qui est de la maladie du sommeil, mais on éradique à une échelle mondiale. Par contre, donc en Côte d'Ivoire, là, donc on a atteint cette élimination comme problème de santé publique. La prochaine étape, c'est l'interruption de la transmission, et même donc on adapte nos stratégies de lutte, toujours avec ce rôle important de la recherche. Et en 2025, en espérant qu'on puisse vérifier cette interruption de la transmission, il faudra, toujours maintenir un niveau de surveillance en Côte d'Ivoire qui devra être à l'échelle nationale, parce que ça, c'est aussi un des résultats des activités menées ces dernières années, c'est d'avoir montré que les mouches tsetse, en fait, elles sont présentes sur quasiment toute l'étendue du territoire. Donc cette surveillance, il faut qu'elle soit nationale. Ça, c'est un vrai défi, en fait, parce que que ce soit les communautés ou même les agents de santé, c'est une vraie difficulté liée au statut actuel de la maladie. C'est-à-dire que quand les prévalences diminuent, la maladie, elle est de moins en moins ressentie comme une menace et par les communautés et par les agents de santé. Donc ça, c'est un grand défi à relever aussi dans les années à venir, c'est de continuer à sensibiliser ces communautés à risque, les agents de santé, pour qu'ils gardent le réflexe trypano, qu'ils ne le perdent pas. Et ça, c'est essentiel, en fait, pour avancer.
Merci beaucoup, Vincent Gemoneau, d'avoir bien voulu répondre à nos très, très, très nombreuses questions.
C'est surtout moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette belle émission.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étape de notre croisière scientifique. D'ici là, amusez-vous bien sûr.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.